Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Vendredi 31 juillet, 7h30 sur Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
Et Marc Tédé pour journal de 7h30 au moment où l'INSEE nous annonce que le PIB de la France a reculé de presque 14% au deuxième trimestre, qui n'était pas un chiffre évidemment avec une grande surprise. La première estimation donnait 17%, donc apparemment l'économie française limite les dégâts avec un recul d'un peu moins de 14%, c'était aussi l'estimation de la Banque de France. Et c'est vrai que l'heure des comptes a sonné, donc après l'épidémie du Covid-19, Marc, là, la plupart des grandes entreprises publient depuis le début de la semaine leur semestriel, spécialement hier, ils sont profondément impactés par la crise.
Oui. Et les indicateurs ne sont pas bons, à quelques rares exceptions près. La plupart des groupes plongent dans le rouge avec des pertes parfois sans précédent qui se chiffrent, Éric Mauban, en milliards d'euros.
Effectivement, Marco, au premier semestre, Renault a perdu 7,3 milliards d'euros et renonce à toute prévision pour l'exercice en cours. Chez Airbus, la perte approche les 2 milliards d'euros du fait de la division par deux des livraisons. Chez Total, la perte nette est de 7 milliards d'euros. Ça va mal aussi chez EDF. Le groupe est dans le rouge de 700 millions d'euros au premier semestre. Un plan d'économie et des cessions sont prévus afin d'amortir les effets de la crise. Pire encore, Air France KLM, 2,6 milliards d'euros de pertes en un seul trimestre. À l'étranger, les chiffres sont tout aussi spectaculaires. Au deuxième trimestre, le PIB des États-Unis a chuté de 9,5% par rapport au premier. En Allemagne, la baisse atteint 10,1%. C'est du jamais vu. À noter cependant les géants américains de l'Internet qui s'en sortent bien. Hier soir, Amazon a annoncé plus de 5 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre. C'est deux fois plus qu'à la même période de l'an dernier.
Tout juste bénéfice doublé pour Amazon, pour Facebook. Merci Éric Mauban. Puis je vous rappelle donc le chiffre qui nous est arrivé il y a quelques secondes. Ce plongeon historique du PIB de la France de 13,8% au deuxième trimestre. On y reviendra évidemment jusqu'à 8h dans cette matinale écho de Radio Classique. La SNCF aussi présentait ses résultats hier. Sans surprise, ils ne sont pas bons, Marc.
La compagnie ferroviaire subit de très lourdes pertes au premier semestre. 2,4 milliards d'euros pour les 6 premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires est en recul de 21%. Il faut dire, Émilie Vallès, que la SNCF a été touchée successivement par la grève contre la réforme des retraites et bien sûr par la crise du coronavirus.
L'année a bien mal commencé avec les turbulences sociales qui ont fait perdre à la compagnie 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et pour ne rien arranger, la crise a ensuite fortement impacté le trafic. Seuls 7% des TGV ont par exemple circulé pendant le confinement. Résultat, sur le premier semestre, la fréquentation a baissé de 50% dans les TER par rapport à l'an dernier et même de 55% dans les TGV. Or, c'est ces lignes à grande vitesse qui rapportent le plus d'argent à la SNCF. Pour limiter les dégâts, la direction a lancé un plan pour dégager près de 2 milliards d'euros d'économies sur l'année. Le groupe public attend aussi une aide de l'État actionnaire. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, a promis que la SNCF serait soutenue à hauteur de plusieurs milliards d'euros.
Émilie Vallès, merci beaucoup.
Aux États-Unis qui entrent en récession et on est à moins de 100 jours de la présidentielle. Donald Trump provoque le choc. Il évoque un report du scrutin.
Oui, le président américain qui est à la peine dans les sondages s'est interrogé hier dans un tweet sur la possibilité de repousser cette élection jusqu'à ce que, dit-il, les citoyens puissent voter normalement en toute sécurité. Ce serait sinon l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire, estime Donald Trump.
Les États-Unis qui enregistrent hier presque 1400 morts liés au coronavirus.
C'est le troisième jour consécutif au-delà de 1200 morts dans le pays et plus de 151 000 depuis le début de la crise sanitaire. Quant au Mexique, il a franchi la barre des 46 000 morts. Il devient donc le troisième pays le plus touché en nombre de décès derrière les États-Unis, on vient d'en parler, et le Brésil.
Et dans ce contexte, cette interrogation en France, faut-il porter un masque à l'extérieur, Marc?
Question récurrente depuis 48 heures, alors que de plus en plus de communes en font désormais une obligation dans les rues fréquentées et les marchés. C'est le cas à Bayonne, Biarritz ou encore La Rochelle. À Paris, la mairie y songe fortement. C'est ce que recommande également le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais certains médecins, comme l'épidémiologiste Martin Blachier, restent très sceptiques.
les contaminations sont 20 fois plus effectives dans un lieu clos qu'à l'extérieur. Si jamais vous êtes vraiment en situation critique, ce qui n'est pas le cas aux frontières, hein, plutôt que de porter le masque à l'extérieur, ce serait des mesures telles que fermer certains lieux qui sont des lieux de cluster, ce genre de choses. C'est une décision qui est politique parce que c'est que des gens politiques qui le prennent, c'est des préfets. Il n'y a pas la communauté médicale qui a dit particulièrement qu'il fallait le porter en lieu extérieur. Le seul argument que j'ai entendu, c'est que c'était plus simple de dire aux gens portez le masque tout le temps plutôt que de leur dire portez-le en intérieur. C'est un peu léger comme argumentaire pour faire porter le masque en août à tout le monde en extérieur.
Et près de nous, pourtant, un pays tout entier, la Belgique, a rendu obligatoire le masque en extérieur. Il faut faire pareil en France, affirme le docteur Jean-Paul Ortiz.
Le masque est la seule façon efficace d'éviter la diffusion du coronavirus, il faudrait qu'il soit rendu obligatoire. Je comprends la réticence des gens qui disent « je me balade à la campagne, je vais pas mettre un masque » ou « je fais du sport, je vais pas mettre un masque ». Je remarque que d'autres pays européens ont adopté ce type de mesure. Masque obligatoire dès que vous sortez de chez vous.
Voilà, dossier réalisé par Rémi Pfister. Et au milieu de toutes ces précautions, les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd al-Kabir.
Aujourd'hui, oui, c'est l'une des plus importantes de l'islam, mais cette année, le coronavirus vient bouleverser les festivités des fidèles. Reportage de Sarah Loubacouche.
C'est une affiche pour indiquer pour la prière de l'Aïd, 7h30. Même si avant c'est plein, donc on ferme dès que les capacités sont atteintes.
La salle de prière que gère Ahmed Wali va sembler bien vide en ce jour de l'Aïd. Elle qui peut d'ordinaire accueillir plus de 1600 fidèles, sa capacité a été divisée par 4 avec les consignes sanitaires qui ont obligé le gérant à tout réorganiser.
Ici c'est la salle qui est utilisée comme salle de prière. Vous voyez les traces, on a marqué les endroits où poser le tapis. Donc tapis personnel obligatoire, donc on ne peut pas rentrer sans être avec son tapis. Les ablutions doivent être faites chez soi. Et puis le masque obligatoire et le sac pour les chaussures.
Et en ce jour de l'Aïd, certaines consignes sont difficiles à imposer pour une fête familiale.
On va être frustré, on ne peut pas se permettre de s'embrasser alors que le jour de l'Aïd, c'est par excellence les jours où on se serre dans les bras.
Dans certaines agglomérations, tout a été fait pour perturber le moins possible les habitudes des fidèles. C'est le cas à Grenoble.
D'habitude, on organise la prière de l'Aïd au sein d'une salle des expositions. Et donc on célèbre la prière avec des milliers de personnes.
Taha est secrétaire du Conseil des imams de l'Isère.
Cette année, il y a 7 ou 8 stades qui sont mobilisés. Ce n'est pas un lieu clos. Ça permet de pouvoir accueillir beaucoup de personnes tout en restant en dessous de la limite des 5000 personnes.
Et pour contenter tous les fidèles, d'autres mosquées ont décidé d'organiser jusqu'à 3 prières dans la journée.
Reportage signé Sarah Lou Bacouche. À Anglet, un incendie spectaculaire a ravagé la nuit dernière environ 100 hectares de pinèdes dans la forêt de Chiberta, en plein centre de la commune, dans les Pyrénées-Atlantiques. De nombreuses maisons ont été évacués. Le feu est désormais sous contrôle, mais les 150 pompiers présents sur place redoutent encore des reprises du feu. Et puis attention, si vous prenez le volant aujourd'hui, jour de grand départ en vacances, Bison Futé a classé la journée rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. A noter également que la circulation est différenciée aujourd'hui en Ile-de-France en raison de la pollution à l'ozone. Dans un périmètre délimité par l'A86, seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler jusqu'à 20h.
Merci pour ces infos pratiques, Marc Tédé. À tout à l'heure, 7h38 sur Radio Classique. Bonne matinée à tous. Dans un instant, les spécialistes de l'écho. Retour sur la journée noire qui a secoué l'économie des grands pays. Aujourd'hui encore, avec ce plongeon historique du PIB de la France de 13,8%. Est-ce l'heure des comptes pour les grandes boîtes et leur cortège de mauvais résultats? Globalement, on en parlera avec Alain Fabre, avec Bruno Mettling. Et puis tout à l'heure, je vous rappelle, l'invité politique de Bernard Poirette sur Radio Classique à 8h15. Ce sera François de Rugy, député La République En Marche de Loire-Atlantique. Très bon été à tous, à tout de suite.